chers amis, le thème de cette instruction de carême est Saint-Louis et la couronne d'épines. Il y aura donc deux parties inégales, une introduction historique tirée de nos livres liturgiques dominicains sur le rapport de Saint-Louis avec cet insigne relique, et puis une méditation proprement dite sur la scène du couronnement d'épines de notre Seigneur qui était l'une des sources de la dévotion du Saint-Roi et qui doit nourrir notre méditation, spécialement pendant cette sainte quinzaine et à l'occasion des retraites que l'on peut faire, où vous est proposé de façon tout à fait adéquate et nécessaire la méditation de la Passion, dont l'imitation de Jésus-Christ nous dit « Elle fait fondre d'amour les cœurs, même ceux qui sont durs comme la pierre. » Donc je vous lis la notice de notre bréviaire dominicain à la fête de la couronne d'épines, quelques deux antiennes de notre liturgie et ensuite de la méditation sur la scène de démission du couronnement d'épines. Tout d'abord, dans l'histoire, Saint-Louis, roi de France, reçu en don vers 1237-1238 la couronne d'épines de notre Seigneur. Il l'a reçue de Baudouin de Courtenay, l'empereur latin à l'époque de Constantinople. Saint-Louis envoya donc pour la chercher deux frères de l'ordre des prêcheurs, des dominicains, André de Montjumeau et Jacques, qui avaient été autrefois prieurs du couvent de la ville impériale de Constantinople, et avaient donc eu l'occasion, là-bas, en Orient, de voir et de vénérer fréquemment cette sainte couronne. Après diverses vicissitudes, des traversées difficiles, des tempêtes, des différents rebondissements tout à fait romanesques, le jour de la fête de Saint-Laurent 1239, au village de Villeneuve-l'Archevêque, près de Sens, la sainte couronne fut reçue par le roi, sa mère Blanche de Castille et son frère Robert, avec un grand concours de clercs, de notables et de peuples. Les historiens, les chroniqueurs nous disent qu'à l'aspect de la vénérable relique, le roi fondit en larmes et tous les assistants furent attendris. Saint-Louis et son frère Robert, vêtus d'une simple tunique, portèrent la relique sur leur dos à la cathédrale de Sens. Les jours suivants, portée avec une grande solennité à Paris, elle fut placée dans la chapelle dédiée à Saint-Nicolas, la chapelle du Palais Royal, que l'on appelle aujourd'hui donc la Sainte Chapelle. Ensuite, ce roi très pieux fit construire au même endroit une splendide chapelle, celle-là, cette chapelle, pour y déposer non seulement la Sainte Couronne, mais une partie de la vraie croix qu'il avait également reçue en don. Alors le roi instaura dans cette chapelle trois solennités confiées à différents ordres ou collèges de chanoines, trois solennités dont il confia la première, à savoir l'anniversaire de la réception de la Sainte Couronne, à la piété des frères prêcheurs. Jusqu'à la Révolution, de nombreux frères venaient chaque année à la Sainte Chapelle, prenaient dans les salles la place des chanoines de la collégiale que Saint-Louis y avait instituée. C'est un élément un peu amusant dans les liturgies parce que les prêcheurs étant des mendiants passent toujours après les chanoines qui sont des gens constituant l'unité. Il y a un petit sourire par rapport à la présence liturgique qui est sympathique. Donc ils prenaient la place des chanoines et toute la journée les chanoines se retiraient et les prêcheurs vaquaient en l'honneur de la Sainte Couronne à la prédication et aux offices divins, exactement comme ils l'auraient fait dans leur propre église à l'époque, donc Saint-Jacques de Paris. Ce précieux trésor de la Sainte Couronne fut dérobé au temps de la Grande Révolution française à la fin du XVIIIe siècle. Mais ensuite, en 1806, il fut restitué à l'archevêque de Paris et transféré dans la cathédrale de la capitale. Le roi Saint-Louis, dans un geste de gratitude, vous savez qu'il aimait beaucoup les frères prêcheurs, les frères mineurs dominicains et les franciscains, il disait si je pouvais faire deux pas à ma personne, j'en donnerais une à Saint-Dominique et l'autre à Saint-François. Donc le roi Saint-Louis, reconnaissant de cette translation difficile depuis Constantinople jusqu'à Paris de la Sainte Couronne, avait offert aux frères prêcheurs plusieurs épines de la Sainte Couronne qui furent l'objet pendant des siècles et encore aujourd'hui d'un culte solennel dans les églises conventuelles de Bologne, de Vicence et ensuite de Thierry et de Milan, de Barcelone et de Liège, et un office solennel de la couronne d'épines, célébré le 24 avril, fut inséré dans la liturgie dominicaine que nous avons nous-mêmes à la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Si vous voulez mieux connaître cette liturgie, vous allez sur le site Fraternité Saint-Vincent-Ferrier, il y a une notice qui décrit les originalités de cette liturgie très ancienne. Donc pour faire la transition, je vous donne deux parties de cet office que nous célébrons le 24 avril. Heureuses épines, dont la pointe est rougie par les gouttes d'une rosée sanglante. Elles brisent les forces du roi des enfers, elles ouvrent les portes du royaume des cieux. Ça sont mes réponses, les premières lettres, qui sont toujours plus solennisées que les deuxièmes lettres. Et l'antienne des Magnificat, ornement de l'Église, glorieuse épine, couronne du roi de gloire, remède du monde, baume et calmant de vos épreuves présentes, préservez de tout mal ceux qui vous célèbrent aujourd'hui. Donc nous allons nous célébrer spirituellement ce mystère en regardant avec les yeux de la foi et à partir du récit de l'Évangile, précisément la scène du couronnement d'épines qui faisait partie des scènes qui émouvaient la piété de notre très saint roi de France Louis IX. D'abord, le crachat de l'homme au visage de Dieu. Après la sanglante boucherie de la flagellation, il y a un instant de répit. On a ranimé le patient, qui avait probablement perdu conscience, assis auprès du lieu de son supplice, revêtu de ses vêtements qui collent à ses plaies. Le sauveur du monde cherche à reprendre haleine pour accomplir la fin de sa carrière. La suite des événements, il l'a prophétisé avec une poignante sobriété de terme. Le Fils de l'homme sera livré aux païens, ils se feront de lui un jouet, ils lui cracheront dessus. La soldatesse romaine aimait à bafouer les rois orientaux que César laissait sur les trônes des territoires conquis. Et cette fois-ci, elle tenait un prétendant que le gouverneur entendait corriger. L'idée de l'improvisation burlesque jaillit donc naturellement. On va déguiser le rêveur mystique en roi de comédie. Toute la cohorte, nous disent les évangélistes, toute la cohorte est convoquée à la fête, c'est des centaines d'hommes. Ces centaines d'hommes surexcités entourent Jésus comme une meute de chiens à la cuvée, ce qui est évoqué dans le psaume 21. En un triomphe dérisoire, ils le portent en blasphémant au sommet du perron central de la cour de l'Antonia, qui était la forteresse où Pilate avait son prétoire, son lieu de jugement. Il l'assoit brutalement sur un tronçon de colonne, le dépouille des vêtements qui adhéraient au corps meurtri et l'enveloppe dans une sorte de casaque écarlate qui sera le manteau du sacre. Vite, quelques-uns courent au fagot dessiné au feu du bivouac. On est en avril, il fait froid, en Terre Sainte à ce moment-là, la nuit surtout. Ils traitent grossièrement une sorte de casque avec des duels épines dont les pointes dépassent dans tous sens de l'horrible tiare. La couronne d'épines n'est pas un bandeau, elle est véritablement une sorte de tiare qui couvre tout le chef. Puis avec une tige de jonc tordu ou une cordelette, il sert un douloureux diadème qui prend comme en étau le chef sacré de Jésus, de la nuque jusqu'au front, comme nous le savons très précisément par l'étude scientifique du Saint-Suaire. Un roseau dans la main droite complète l'accoutrement. La cérémonie de l'hommage au nouveau monarque peut commencer. C'est d'abord un hurlement ignoble où se mêle la joie de voir souffrir et le désir de dégrader encore l'être que l'on tient à sa merci. Salut, roi des Juifs. Réjouis-toi, salut, en grec, c'est réjouis-toi. et c'est possible qu'il se soit échangé dans cette langue-là. Réjouis-toi, sois heureux, et un règne prospère. Lavé, décaillé, laisse par les blasphèmes à toi, monte comme les eaux de la mer jusqu'au cœur de la victime, comme le prophète David l'avait vu dans le psaume 68. Et le défilé s'organise. On se presse pour approcher, pour ployer le genou devant le malheureux déguisé. Et bientôt, son silence, sa noblesse d'attitude, son immense dignité, le regard aveuglé par les filets de sang qui lui emplissent les yeux, deviennent intolérables. Et l'un des soldats, exaspéré, saisissant le roseau, assène un coup à la masse d'épines qui couvre la tête. Alors, c'est l'armée de la l'ignominie. Chacun des suivants l'imite en rageant, qui, en le souffletant brutalement d'un grand coup de poing de revers, qui en trahissant son écœurant hommage par un crachat qui va se mêler au sang, à la sueur, à la poussière, qui voile maintenant la face du juste. Et lui, Jésus, alors que la douleur et l'humiliation touchent à leur comble, ne fait que méditer ce que l'Esprit disait de lui par Isaïe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. Lorsque cela fut fini, Jésus, nous dit Monseigneur Gay dans de beaux entretiens sur les mystères de Rosaire, Jésus, la splendeur de la gloire de Dieu, sa beauté essentielle faite homme, n'était plus de la tête aux pieds qu'une forme semblante et comme un amas de sang. Voici l'homme. La loque humaine est alors conduite au gouverneur, qui ne peut retenir un haut de cœur de dégoût et de pitié. Mais son émotion maîtrisée, Pilate voit le parti attiré de la situation. Le spectacle du déshonneur du Galiléen va assouvir, pense-t-il, l'envie des chefs juifs et attendrir la foule versatile. Pilate gagne donc, par la galerie au-dessus de la voie romaine, la tribune surmontant le grand arc de l'entrée de la forteresse. Il annonce à la foule qui est massée là, à l'extérieur, non pas contractée, la souillure légale de rentrer dans la maison impériale. Il annonce à la foule la venue du prisonnier. Saint Jean nous dit, les paroles mêmes de Pilate, « Afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Ici, le récit de l'apôtre bien-aimé qui a dû assister à la scène souligne le côté grandiose et tragique de cet instant. Jésus est soufflé à monter lentement l'escalier qu'il sanctifie de ses pas. Vous savez, la tradition de lui, il est conservé à Rome, la Scala Santa, qu'on monte la nuit, à côté de Saint-Jean de Rome. Et Saint-Jean a une phrase tout à fait précise qui complète ce que les renseignements des synoptiques. Il sort donc, portant la couronne d'épines, qu'on a vu d'abord arriver, cette masse énorme, ce visage et ce corps nu recouvert de la casaque. Et c'est donc, il sort donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et c'est alors la terrible et mystérieuse parole du Romain qui résonne jusqu'au fond de la place où la foule s'est entassée. Mais mettons-nous dans la foule. Jésus est mort pour nous, c'est nous. Voici l'homme. Un instant de stupéfaction, et bien vite, les grands prêtres et les satellites, donc pas toute la foule, dans un hurlement satanique, aboient leur reniement à la face de celui qui vient les sauver. Crucifie-le, crucifie-le. Dans le chant de la Passion dominicaine, ma voix monte de façon tout à fait prenante à ce moment-là. Ô mon Jésus, mon cœur n'entend déjà plus le vacarme de vos ennemis, car il est tout envahi de la vision de votre face. C'est le visage de Dieu, couronné des épines de la révolte humaine. Le péché n'a-t-il point fait tomber, comme l'évoque le psaume 4, le péché n'a-t-il point fait tomber la couronne de grâce de la tête du premier Adam, Seigneur des œuvres de Dieu? Les épines, évoquées au chapitre 3 de la Genèse, les épines ne sont-elles point le fruit de la malédiction qu'Adam a attirée sur lui et sur la création? Ô fils de l'homme, second Adam, vous vous en couronnez pour expier notre faute et porter notre malheur. Voici l'homme. Dans ce massif d'eux, je vois corporellement l'état, le péché, a mis mon âme, la mienne. Magnanime, plus encore que ce saint Job qui vous figurez, vous avez pris le fumier de mes péchés dans mon cœur, vous voulez l'appliquer sur le visage pour que je le voie parmi vos couleurs de sang, et vous avez saint, comme on le lit au chapitre 31 de Job, vous avez saint votre front comme d'une couronne de la sentence de ma condamnation. Vous me montrez, Jésus, dans ce tableau hallucinant, que la haine de l'enfer a peint sur votre chef, de quelle royauté de tribulation de mort Satan couronne ce qu'il trompe de sa fausse sagesse. Mais vous, sagesse éternelle, votre regard, au travers des figures qui le voilent, atteint toutes les âmes des hommes de tous les temps, mystiquement présents sur la place pour crier par leur cri, crucifie-le. Il me perce moi aussi ce regard de l'amour crucifié, de l'amour de pitié dont vous m'avez aimé, et il me dit, au fond de l'âme, la tendresse de l'agneau défigurée pour moi, comme il l'a dit à une sainte voix, ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. Royauté de la miséricorde. Non, ce n'est pas pour rire que vous me dites doucement combien mon âme vous a coûté. On voit dans mon Antique des Cantiques une allégorie. Ouvre-moi, car ma tête est pleine d'une rosée de sang et des gouttes de la nuit de la puissance du mal trempent ma chevelure. Oui, j'ouvrirai mon âme, ô fils de Marie, à votre royauté de miséricorde. Je pleurerai abondamment jusqu'à ce que mes pleurs puissent laver votre face sacrée. Et puis, je vous ferai entrer, sachant que vous viendrez en moi, avec votre couronne douloureuse, meurtrir mon cœur de vos épines et moindre mon âme de votre pardon. Il me faut le sang de votre front, il me faut les crachats de votre face, il me faut les brûlures de votre tête pour dégonfler toutes mes plaies d'orgueil et pour me préserver par ce baume de votre pardon, de l'onction trompeuse du pécheur évoqué au psaume 140. Que le broiement de votre chef, ô Jésus, me broie le cœur de contrition, que la piqûre de vos épines me pique sans cesse de compunction, que la laideur de votre face souillée me fasse aimer la beauté de votre gloire. Que tous avec moi célèbrent ces noces mystérieuses du roi de miséricorde, régnant dans la joie de son cœur sur les âmes qu'il a enivrées de l'ivresse de son pardon. Le cantique nous redit, sortez de vous-même, âme pécheresse, et voyez le roi pacifique avec le diadème dont l'a couronné sa mère au jour de ses épousailles et au jour de la joie de son cœur. Mon Dieu.